aux auditeurs de Radio MDM, nous revoici dans l'émission Leur histoire est aussi notre histoire. Et aujourd'hui, pour la seconde émission consacrée à l'âge du fer, je vais rencontrer de nouveau Didier Vigneault, archéologue, qui va donc nous parler de cette période si particulière en Marsan. Bonjour Didier.
Bonjour Jeanne-Marie, merci encore de m'avoir invité à votre émission.
Cet âge du fer qui commence aux alentours de 800-700 avant Jésus-Christ, qui s'arrête à 50 avant Jésus-Christ. Là, par contre, on a du mal à localiser les habitats. Alors, soit on ne connaît pas, très bien la céramique de ces périodes-là, puisque tous les sites que l'on trouve, notamment lors des prospections en contexte forestier, sont surtout matérialisés par la présence de mobilier céramique. Donc, peut-être que ces céramiques ressemblent à celles de l'âge du bronze. Et tant qu'il n'y a pas de vecteur chronologique ou de vecteur typologique matérialisant l'âge du fer, on a du mal à les identifier. Dans l'âge du fer, on a quand même pas mal de sites qui sont répertoriés, mais très peu de contexte d'habitat. Bon, pour les autres sites, on va le voir tout à l'heure.
En dehors des objets en fer qui donnent son nom à l'âge du fer, qu'est-ce qui caractérise les sites de cette période ?
L'âge du fer, comme son nom l'indique, a vu notamment l'exploitation des premiers minerais de fer. Même si on a quelques éléments en ferreux qui apparaissent au cours de l'âge du bronze, l'exploitation métallurgique des minerais de fer se développe énormément au cours de l'âge du fer, justement. Ce fer permet de produire à moindre frais des éléments qui sont beaucoup plus résistants que ceux en bronze, ce qui fait un gain technologique vraiment, et un bond technologique vraiment très important.
Alors pour l'ensemble de ces périodes, et surtout pour l'âge du fer, les sites que l'on a dans notre région, que l'on connaît le mieux, dont on a le plus grand nombre, ce sont les nécropoles, donc les cimetières. Hein. On a découvert 43 cimetières autour de Mont-de-Marsan, qui date de la fin de l'âge du bronze jusqu'à l'âge du fer, hein. Premier âge du fer plutôt, jusqu'aux alentours de 450 avant Jésus-Christ. Et là, on a énormément de cimetières de ces périodes-là, cimetières qui peuvent être assez grands, puisqu'on a certains cimetières qui peuvent dépasser les 140 tombes. Hein. C'est le cas de la nécropole de Mouliotte à La Glorieuse, où nous avons fouillé de 1997 à 2003 la plus grosse nécropole de l'âge du fer en Aquitaine. Et celle-ci contenait 140 tombes. Elles sont matérialisées par des incinérations, donc le corps du défunt était incinéré, et les résidus ossés étaient placés dans une urne qui était recouverte d'un plat couvercle, et l'ensemble était enfoui dans le sol. Dans ces urnes funéraires, on pouvait très souvent, à cette période-là, découvrir un vase accessoire, qui est un petit vase en céramique, et qui contenait visiblement, très vraisemblablement, des éléments matériaux périssables, hein, ou alors des liquides, ou alors de la nourriture, puisqu'on ne retrouve absolument aucune trace de ce qu'il contenait, le tout ayant disparu avec le temps.
Donc, si vous avez trouvé autant de nécropoles, donc autant de morts, cela signifie qu'il y avait des petites communautés qui vivaient un petit peu partout à l'intérieur du Marsan pour cette période-là, ce qui jusqu'à présent était quand même ignoré.
On a quand même une vie assez riche, hein, et donc on a cette vie qui est matérialisée par ces morts, en fait, hein, puisque s'il y a eu des morts, forcément il y a eu de la vie. Donc on a pas mal de nécropoles qui trahissent que le peuplement que nous avons aux alentours de Mont-de-Marsan était assez riche et diversifié. Une autre période où nous trouvons pas mal de nécropoles, on commence à découvrir pas mal de nécropoles, et qui est une surprise, c'est ce qu'on appelle le deuxième âge du fer. Hein. C'est une période qui commence aux alentours de 450 avant Jésus-Christ, pour se terminer aux alentours de 50 avant Jésus-Christ. Donc c'est une période de 400 ans. Hein. Cette période de 400 ans a été connue tout dans notre région pour ne pas avoir de nécropoles, et surtout de nécropoles possédant des objets qui pourraient être de tradition celte. Or, nous avons découvert 4 nécropoles depuis 2013, et ces nécropoles trahissent bien évidemment une période où on va avoir des influences, que ce soit venant du nord de la Garonne, ou des influences venant de la péninsule ibérique, puisque nous avons trouvé des objets venant des deux endroits. Voilà, donc ces nécropoles se différencient des nécropoles de l'âge du fer, puisque l'on retrouve pas mal d'objets métalliques à l'intérieur, notamment des objets de guerriers comme des pointes de flèches, des pointes de lance et des épées aussi. Et on y découvre aussi des objets de parure, hein, des torques, des bijoux. Dans ces nécropoles, il y a d'ailleurs des objets qui sont uniques en France. Hein. Donc c'est la première fois que ce type d'objets sont découverts. On les a découverts ici dans le Marsan.
Alors, pour conclure sur cet aspect-là, si j'ai bien compris, toutes les découvertes qui ont été faites avec le Kraal ont donc permis d'enrichir de façon considérable la connaissance archéologique de ces périodes lointaines que sont l'âge du bronze et l'âge du fer entre moins de 1500 et 50.
Voilà, on a découvert au cours de ces 10 dernières années 1030 sites inédits et sur ces 1030 sites, il y en a à peu près 700 qui appartiennent à la période préhistorique, hein, une période, comme je l'ai dit, qui s'arrête à 50 avant Jésus-Christ. Et qui donc s'étale sur plus de 6500 ans. Donc découvrir 700 sites sur 6500 ans, c'est pas tellement important, hein, voilà. Mais par contre, ça veut bien dire que dans notre secteur à nous, il y avait ce qu'on appelle une dynamique de peuplement, c'est-à-dire que les hommes venaient habiter dans les Landes. Et la question qu'on se posait autrefois, c'était de savoir si ces hommes venaient de façon sédentaire ou de façon ponctuelle, notamment par la transhumance associée au pastoralisme.
Pendant longtemps, les archéologues ont disposé seulement d'un nombre de sites assez réduit, notamment pour l'âge du fer. Donc, il était difficile de répondre à la question « Est-ce que les hommes sont des sédentaires ou sont des nomades ?» Et maintenant, la situation a évolué, que vous avez beaucoup de sites à votre disposition, pouvez-vous répondre à cette question ? Finalement, les hommes du Marsan étaient-ils des sédentaires ou des nomades ?
Sur ces questions-là, on a pu y répondre notamment par l'analyse, en premier lieu, de l'analyse des vases qui ont été trouvés, les vases silos qui ont été trouvés sur certains sites, notamment pour l'âge du bronze moyen. En analysant les pattes de ces vases, on a découvert qu'elles étaient fabriquées avec de l'argile locale, et quelquefois cette argile locale contenait des restes de vases qui, eux aussi, ont été fabriqués localement. C'est-à-dire que pour recycler les anciens vases, on les détruisait, on les broyait, on les mélangeait avec de l'argile, ce qui évitait de perdre trop de produits et d'aller chercher trop d'argile sur le site. Et ça permettait en même temps de recycler l'existant. Donc ces vases-là étaient bien fabriqués de façon locale et ensuite on les enfouissait pour en faire des vases silos. Donc ça signifie bien que on avait une population qui s'alimentait, qui s'approvisionnait localement et qui ensuite vivait localement. Donc ça, c'était la première preuve que l'on avait pour permettre d'avancer que les populations étaient sédentaires. La deuxième preuve, c'est preuve liée à l'agriculture. Hein. Donc on a sur certains sites qui ont été fouillés par l'État, des sites qui ont montré qu'il y avait la présence de céréales d'été et de céréales d'hiver. Donc s'il y a des céréales d'été et céréales d'hiver, ça signifie bien que les populations étaient sédentaires. Donc pour résumer, on vivait dans les Landes, on s'installait dans les Landes, on n'était pas du tout face à une population qui était entièrement nomade. Alors cela n'empêche pas que dans le groupe familial ou alors à l'intérieur d'une communauté, il pouvait y avoir des personnes qui avaient une vie plus de nomade, hein, donc une vie plus liée à l'agropastoralisme. Il était possible aussi qu'ils faisaient de la transhumance, donc ils partaient pour des jours, des semaines, des mois. Mais en tout cas, l'habitat par lui-même était sédentaire. Si l'habitat est sédentaire, il y avait bien forcément des populations qui l'entretenaient et qui restaient sur place. Donc ça, nous avons la preuve là des preuves concrètes, matérielles, de la présence de populations sédentaires sur ces sites. Hein. On ne connaît pas le volume de populations sédentaires, mais pour l'instant, tous les sites que l'on trouve hein, sont matérialisés par la présence de vassilos, ce qui signifie que les gens restaient bien en place et n'étaient pas du tout nomades.
Nous arrivons donc à la fin de cette première émission qui est consacrée à l'âge du fer en Marsan, avec le résultat donc, de tout un travail archéologique qui a été réalisé, présenté donc par Didier Vignot avec le CRAL, le Centre de Recherche Archéologique des Landes. Alors pour terminer, Didier, vous avez une nouvelle chanson ?
Oui, je vais vous proposer The Weeknd, qui va vous interpréter In Your Eyes.
Dans l'émission Leur histoire, c'est aussi notre histoire, en compagnie de Didier Vignot, archéologue, qui, dans un premier volet, nous a présenté l'âge du fer en Marsan, de moins 450 à moins 50 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire environ 400 ans, avec ses différentes caractéristiques, et en particulier une question qui a été longtemps la question clé des archéologues, c'est-à-dire est-ce que les hommes sont des sédentaires ou des nomades durant cette période ? Alors là, visiblement, les nombreuses découvertes de sites qui ont été réalisées ces dernières années ont montré que les hommes étaient essentiellement des grands sédentaires, mais que cela n'excluait quand même pas un petit peu d'agro-pastoralisme pour certains individus.
peut y avoir de l'agropastoralisme qui a fait que ces populations vivaient, hein, mais cet agropastoralisme, c'est-à-dire l'agriculture plus l'élevage, hein, on ne sait pas si cet agropastoralisme était une source de revenus ou si l'agropastoralisme était une obligation pour vivre en autarcie. C'est-à-dire que pour rester et vivre dans le secteur des Landes, qui est quand même un secteur sable, de sable, hein, le sable étant très, très, pas très bon à l'état brut pour l'agriculture, il faut un apport d'azote, et cet apport d'azote peut être réalisé par les déjections des animaux, notamment par un cheptel, par la déjection d'un cheptel. Hein. Donc ces déjections de cheptel vont enrichir le sol, et ensuite on pourra y réaliser de l'agriculture au bout d'un certain temps.
Dans ce que vous venez de présenter, on s'approche déjà de l'agropastoralisme tel qu'il existait dans la Grande Lande pendant des siècles jusqu'au XIXe siècle.
Cet agropastoralisme-là, pour qu'il commence à devenir rentable, il faut quand même un cheptel assez important et ensuite produire de l'agriculture sur une surface importante. Donc il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées, mais des études qui ont été réalisées pour une période plus récente qui est la période romaine, mais qu'on peut transposer ici, hein. Donc il y a des études qui ont été réalisées qui, je vais raccourcir, hein, nous disent que pour une cellule familiale de 6 à 8 personnes, ce qui était selon certains chercheurs la moyenne d'occupation des habitats de l'époque, hein, 6 à 8 personnes, pour ces 6 à 8 personnes, eh ben, il fallait en gros 4 hectares de terre et un cheptel composé de 75 têtes pour pouvoir fertiliser les champs. 4 hectares, c'est le minimum qu'il fallait pour pouvoir produire des céréales et alimenter tout le monde, hein, la base nutritive était la bouillie ou le blé ou le pain, pardon. Ensuite, les 75 têtes, c'était pour pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, fertiliser les champs. Mais il est bien évident que tout cela, ça représente du travail, notamment s'occuper de 75 têtes, ça veut dire qu'il y avait des personnes qui étaient dévolues à cette activité dans la cellule familiale ou alors dans la communauté, parce que on a découvert que certains habitats n'étaient pas isolés, hein, les habitats étaient regroupés.
Ces regroupements pourraient donc être les ancêtres de certains de nos villages, pas forcément au même endroit bien sûr, mais en tout cas ancêtres de nos villages contemporains.
On a certains cas, hein, d'habitats regroupés, comme à Aigos, on a notamment certainement même où il y a une trentaine de petits sites qui sont tous de petits sites de 900 mètres carrés quand même, qui sont les uns contre les autres. Donc on avait bien des gens qui vivaient en communauté, hein, à cette époque-là déjà, mais il pouvait y avoir des sites qui semblent isolés dans le paysage, et cela avait un besoin fondamental de vivre en autarcie. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vivre en autarcie, ça exige quand même pas mal de surface de terre, plus un cheptel. Il ne faut pas oublier non plus, comme j'en ai parlé au début, qu'il y a eu des études environnementales qui ont montré que les Landes étaient en réalité une chenée mixte. Et dans cette chenée, ouvrir 4 hectares, ce n'est pas si évident que ça. Hein. C'est réalisable, mais ce n'est pas évident. Et venir faire de l'agriculture pour l'autarcie, c'est une chose, mais produire pour les besoins de plusieurs communautés, c'en est une autre. Et là, pour produire pour une communauté, ça signifie que on dépasse largement les 4 hectares de terre, et largement les 75 têtes de bêtes dans le cheptel. La question qui se pose, c'est est-ce que réellement l'agropastoralisme était une source de revenus à l'époque? Et là vient encore les études environnementales qui nous disent que, attention, à cette époque-là, on avait cette forêt, et que la forêt, elle s'ouvre de plus en plus sur le territoire. Et si cette forêt s'ouvre de plus en plus sur le territoire, ça veut bien dire qu'il y a une exploitation de la forêt. Donc, le bois, la part du bois pour ces périodes-là est importante, extrêmement importante. Il y a très peu d'objets en pierre dans les Landes, hein, dans notre région. La pierre est difficile à trouver. Donc forcément, on va avoir beaucoup de choses qui vont être faites en bois. Alors ce bois, ben, c'est une source de matière première qui est facilement trouvable, hein, on le trouve, et ce bois ben, il peut être vendu à d'autres populations qui sont regroupées en cellules familiales plus importantes.
De ce que vous venez de dire, on a l'impression que les activités des hommes par rapport au bois et notamment au défrichement de plus en plus important ont finalement façonné le paysage de landes que les hommes ont connu depuis pratiquement l'Antiquité jusqu'au 19e.
Dans ces forêts, il y avait beaucoup de choses. Hein. Il y avait aussi des animaux sauvages que l'on pouvait chasser, un pour la nourriture, et deux, pour la fourrure, hein. Il ne faut pas oublier aussi qu'il fallait s'habiller. Donc, cette fourrure-là, comme l'ont démontré les chercheurs, mais pour l'époque romaine, hein, cette fourrure-là, elle était aussi exploitée. Et quand on tue un animal, ben, on n'exploitait pas que la fourrure à l'époque, on le consommait aussi. Hein. Donc, il ne faut pas oublier que la forêt a été une source d'approvisionnement multiple, pluriel pour les populations de cette période. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à l'agropastoralisme pour définir ces populations. Il faut aussi, pour notre région, pouvoir parler d'autres sources économiques comme la forêt. Et cette source économique, elle était nécessaire, hein, puisque il y avait du troc, hein, bien évidemment, mais il fallait bien récupérer des métaux qu'on ne trouve pas, à part le fer, hein, qu'on ne trouve pas chez nous, comme notamment le cuivre et l'étain. Ces métaux-là, il fallait bien les acheter, hein, ou les troquer contre autre chose. Il fallait bien acheter ou troquer du sel. Alors le sel, on a la preuve, notamment pour les périodes anciennes, hein, il y avait bien une production de sel, notamment du côté de Salis de Berne ou dans le Médoc. Et là encore, le Médoc en revient encore avec les vases de type médocain que l'on retrouve. Il y a peut-être un échange avec eux, justement, pour cet approvisionnement en sel. Et ce sel, ben, on avait besoin aussi pour conserver tous les aliments. Donc, il faut écarter cette vision que l'on a de population nomade, arriérée pour les périodes anciennes, comme la préhistoire. Hein. On a une dynamique de peuplement qui est forte. On a des gens qui font du commerce. On a des gens qui ouvrent de plus en plus leur forêt, donc qui créent des espaces ouverts. On a des gens qui vivent, qui sont sédentaires. Des gens qui font de l'agriculture, qui développent des techniques d'exploitation du métal aussi, donc métallurgique. Et on a aussi des gens, et ça on l'a montré aussi, qui font du tissage, notamment au bronze final, où on a découvert les preuves d'un métier à tisser sur la commune de Broca. En petit aparté, c'est la seule preuve matérielle que l'on ait au sud de la Loire pour l'instant, en ce jour. Hein. Il n'y a pas d'autres éléments au nord, au sud de la Loire d'éléments identiques qui ont été découverts à ce jour. Et on a découvert un sur Broca, donc on avait bien la preuve que on tissait, on produisait des vêtements, on produisait des objets en laine. Alors ça peut être de la laine animale ou alors du chanvre ou du lin. Et on avait donc des populations qui vivaient et qui restaient dans les landes. Voilà, donc là, je vous ai parlé un peu du monde des morts, du monde des vivants, de ce que l'on a exploité ici, à notre échelle, autour du monde Marsan. La recherche, jusqu'à présent, continue. On a découvert beaucoup de sites, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus de 700 pour la période préhistorique. Mais on a toujours des études scientifiques qui continuent, hein, et qui permettront d'enrichir notre connaissance sur la préhistoire dans notre région, et on pourra, je l'espère, apporter des compléments d'infos, même si ce que l'on a déjà apporté là permet de révolutionner un petit peu l'idée que l'on avait des Landes jusqu'à présent.
Didier, merci beaucoup pour toutes ces informations que vous nous livrez sur ces populations qui sont les lointains ancêtres des habitants du Marsan, que vous et vos collègues du CRAL remettez effectivement en valeur. Vous parcourez les communes du Marsan au sens large, vous arpentez, comme Félix Arnaudin, une terre qui fut celle de lointains ancêtres des habitants d'aujourd'hui, à la recherche du fil ténu qui les reliera, car leur histoire est aussi notre histoire. Il est temps maintenant que vous proposiez de dernière chanson pour terminer cette seconde partie de l'âge du fer.
Alors je vous propose une chanteuse qui a été découverte grâce à un télécrochet anglais. Il s'agit de Grace Davis qui interprète Roots. Donc voilà. Ben, je vous dis à bientôt.
Et à bientôt pour une nouvelle émission consacrée cette fois à l'époque romaine en Marsan, toujours avec Didier. À bientôt, à Dichatz.
I don't wanna be found out. I don't wanna leave this town tonight. Don't wanna be back where I started from. Cause my roots won't keep me warm. They won't keep me warm. But they said I was always gonna be that way. Until I saw you, I believed them every day. And then you came my way. You were let me love, oh let me love you. Until we're old, oh let me love, oh let me love you. Until we grow old. Cause my roots will never keep me warm. I guess I made it here somehow. I made it this far and I am proud. I've seen my whole just change, nothing stays the same. And I, for one, am glad. I never knew I wanted you so bad. But they said I was always gonna be that way. Until I saw you, I believed them every day. And then you came my way. You let me love. Until I saw you, I believed them every day. And then you came our way. Oh, let me love, oh, let me love you. Until we're old. Oh, let me love, oh, let me love you. Cause my roots won't keep me warm. My roots won't keep